les matins de génie. Deuxième partie.
Karembe nous accompagne ce matin dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h. Je vous rappelle que vous écoutez les Matins de Génie sur la radio africaine. La question de ce matin, l'esclavage historique et actuel, peut-on pardonner, peut-on réparer ce racisme d'un autre âge? Nous attendons une association, j'espère qu'elle sera là. En tout cas, c'est une association qui s'occupe de la question de l'esclavage en Mauritanie. Mais mes deux invités sont Martial Zebelinga et M. Kifley Selassie qui vont se présenter aux auditeurs d'Africa numéro 1. Alors, M. Zebelinga, bonjour. Vous êtes le directeur de publication du site africarap.com.
C'est le cas, oui.
Mais vous êtes également écrivain.
Écrivain, je ne sais pas. En tout cas, co-auteur de deux ouvrages aujourd'hui. Donc, oui. Celui qui est en présentation par rapport à notre thème, c'est
Esclave noir,
Maître blanc, qui est paru en 2006, je crois mars-avril 2006, chez l'éditeur très mongobétiste qui s'appelle Omnisphère et qui fait des choses très bien, qui travaille beaucoup sur les questions de domination, entre autres. J'ai également été co-auteur, donc toujours pour le même éditeur, en 2003, me semble-t-il, voilà, d'un numéro spécial sur le panafricanisme. Où il y a également une perspective historique et les questionnements d'aujourd'hui. Par ailleurs, donc, j'ai collaboré avec des revues et je continue de collaborer avec des revues de sciences humaines comme Présence africaine ou alors Histoire anthropologie, Regard sociologique à Strasbourg. Voilà un petit pour dire rapidement mon activité de contributeur et de chercheur un petit peu en sciences sociales.
À ces questions essentielles. Donc, je rappelle le livre « Esclave noir, maître blanc » publié aux éditions Omnisphère.
Voilà.
Et le sous-titre, c'est « Quand la mémoire de l'opprimé s'oppose à la mémoire de l'oppresseur ». Autre invité, M. Kifley Selassie, vous êtes écrivain, éthiopien, historien et philosophe, et vous avez été directeur du Fonds international pour la promotion de la culture à l'UNESCO. Monsieur Selassie, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur vous pour vous présenter?
Vous avez dit l'essentiel, mais par rapport à nos thématiques, j'ai eu la chance de participer dès le début à ce que l'on a appelé par la suite la route de l'esclave, c'est-à-dire la part de l'Afrique dans la rencontre de ce que l'on appelait les deux mondes, c'est-à-dire la rencontre entre l'Europe et l'Amérique. Et donc, en 1992, pour le 500e anniversaire de la commémoration, parce qu'il a fallu préférer le mot commémoration à la célébration, en vue de ce qui s'est passé par la suite, le génocide des Amérindiens et l'esclavage que nous allons traiter. Et donc, c'est là que nous avons fait la première évaluation de ce qu'est la part de l'Afrique, donc de l'esclavage aussi. Et également, c'est là, au Cap-Vert, que nous avons jeté le projet que l'on appelait la route de l'esclave à l'UNESCO, qui verra un comité scientifique sous la direction de M. Amadou Matarbo, l'ancien directeur général de l'UNESCO, effectuer un ensemble de travaux qui sont très importants par rapport à la thématique que nous avons à traiter aujourd'hui.
Et on se retrouve justement dans quelques instants.
Pour réagir... EugénieDieki@africa1.com.
Oh lampe tempête, toi qui éclaire ma case. Oh lampe tempête, toi qui éclaire ma case. Tu bois ton sang et tu manges ton cœur. Tu bois ton sang et tu manges ton cœur. Dans mon village, quand la nuit tombe, c'est la tristesse, c'est la détresse. Soudain quand tu t'allumes, c'est l'allégresse. D'où viens-tu, oh lampe tempête, lampe libératrice, lampe inspiratrice. Je ne crains plus la nuit noire, grâce à toi, je ne crains plus le diable. Grâce à toi, les serpents et les bêtes féroces. Grâce à toi, maintenant je les vois. Grâce à toi, tu m'as ouvert les yeux. Oh lampe tempête, d'où viens-tu? Oh lampe tempête, d'un ange ou d'un démon, de l'Occident ou de l'Orient, du Sud. Je suis et je te regarde. Moi je suis là et je te garde. Tu es mon héros, oh lampe tempête. Merci beaucoup pour le sacrifice. Tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu te tues pour me sauver. Oh lampe tempête, oh lampe tempête. Merci beaucoup, oh lampe tempête.
Zao et sa lampe tempête pour nous éclairer jusqu'à 12 heures et surtout, oui, parce qu'on a besoin d'un éclairage actuel, réactualisé sur cette question de l'esclavage. L'esclavage historique et actuel, peut-on pardonner, peut-on réparer ce racisme d'un autre âge? Alors nous l'étudions, nous questionnons à la lumière d'un ouvrage dont nous vous avons parlé, Esclave noir, maître blanc, quand la mémoire de l'opprimé s'oppose à la mémoire de l'oppresseur, c'est publié aux éditions Omnisphère et pour en parler, Martial Zebilinga et Kifley Selassie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce livre? Quels en sont les enjeux et les questionnements essentiels, Martial Zebilinga?
Donc, ce livre est parti d'une réflexion donc importante, à mon sens, qui est menée depuis 1998 au moins, donc par un ensemble de chercheurs et de militants, donc chercheurs militants
ici
autour de
France.
La question, voilà, ici en France, dans les Caraïbes et en Afrique,
oui.
Puisque c'est un ouvrage collectif auquel participent des autorités comme Christiane Taubira, Salah Molins, qui est philosophe français, Henri Bangou. Il y a une interview d'Aimé Césaire,
Sommeil Oporeka.
Voilà, Sommeil Oporeka, qui lui est philosophe burkinabé. Donc il y a dans cette démarche, donc cet ouvrage collectif, la volonté de réunir autour de cette problématique de la traite négrière et l'esclavage de cette époque-là, la volonté de s'interroger et d'en tirer le maximum d'enseignements pour aujourd'hui. Parce qu'un crime, quelque chose qui a provoqué une telle fracture sur le corps de l'humain, est à réparer, mais à réparer d'abord par la vérité, en essayant d'en tirer le maximum de vérité historique et de vérité humaine. C'est dans ce contexte que nous intervenons, et je dois dire que, contrairement à l'idée qu'on en a souvent, c'est une question qui a toujours interpellé et interrogé les humains du monde entier, en particulier les Noirs. Qu'il s'agisse des Afro-Américains, vous vous souvenez des travaux de quelqu'un comme Webb Dubois. C'est le premier à avoir d'ailleurs écrit explicitement sur les réparations, Petition on Behalf of Negroes, en 1947, je dirais, aux États-Unis. Toute la tradition réparationniste américaine, avec les Malcolm X et d'autres, hein, même à l'ONU, la question avait déjà été abordée, jusqu'en 91, on se souvient, 90, avec, au Nigeria, la grande conférence sur la question des réparations avec Moshood Abiola. En 99, à Accra, il y a également eu une conférence autour des réparations, où la question avait d'ailleurs été chiffrée. C'est pour dire que nous ne nous inscrivons pas comme des individus isolés, mais c'est quand même il s'instaure une tradition de réflexion sur nous-mêmes et une tradition de réflexion sur ce qu'a été la traite négrière et des issues qu'elle a entraînées sur le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui est totalement asymétrique, un monde où il existe une véritable confiscation du monde, une espèce d'accaparement du monde qui s'est radicalisé avec la période de la traite négrière et qui a radicalisé les regards que les êtres humains ont et portent les uns sur les autres. Et c'est au titre, justement, que cette période et ce moment historique nous permet de comprendre aussi le monde d'aujourd'hui, puisque la traite négrière, c'est un premier moment, je dirais, un moment pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. On comprend mieux le monde d'aujourd'hui aussi en comprenant ce qui s'est passé
par la traite négrière.
Voilà, c'est pour ça que nous avons pensé revenir sur cette question, avec la particularité que, contrairement à l'ensemble, à une grande production intellectuelle et culturelle française et francophone, nous abordons la question des réparations.
Alors, votre contribution porte sur la mémoire, une mémoire dominée et l'impératif catégorique de veille historique, mais nous y reviendrons. Je vais passer la parole à M. Kifley Selassie. Donc, vous avez dit que vous avez abordé cette question de l'esclavage à travers la route de l'esclave, hein, le travail qui a été fait sur cette question-là.
Oui, la route de l'esclave est, comme vient de le dire mon frère Zebilinga, n'est qu'une étape dans le processus de la mondialisation. Mondialisation qui, de manière concrète, a commencé, pas de manière abstraite, quand du théorique on passe à la pratique d'un monde global, d'un monde rond, où à la recherche de l'Inde on arrive en Amérique et on s'aperçoit que le monde, pas du point de vue théorique mais pratique, est un seul monde. Et dans ce monde-là, quelle est la part de l'Afrique ? Parce que tout aussi bien, le phénomène de l'esclavage est un phénomène qui existe de tout temps.
Oui.
De tout temps. Mais la traite négrière est quelque chose qui a commencé avec la découverte, en guillemets, de l'Amérique tout en cherchant l'Inde. À partir de ce moment-là, comment se fait-il qu'il y a eu d'abord un véritable génocide, celui du massacre des autochtones de là-bas, c'est-à-dire des Amérindiens, qui était estimé comme étant l'équivalent du cinquième de la population mondiale, et quand il a fallu développer une économie du coton et du sucre, il a fallu faire venir des Africains. Alors, moi je pense que nous devons avoir le courage de regarder le problème, la vérité et les faits, y compris au niveau de la part de l'Afrique, c'est-à-dire ce que nous-mêmes avons fait dans le cadre de ce processus qu'on appelle l'esclavage.
Moi, je vous posais la question, on nous a tous appris cette histoire, la traite négrière, l'esclavage, hein, à l'école,
enfin, ça dépend de comment aussi,
au lycée, oui, justement. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné ? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné, vous, Zébilinga, au sujet de cet esclavage, cette traite négrière ? Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ?
Ce qui change principalement, c'est la prise de parole. C'est qui parle, au nom de quoi, en vertu de quoi. Nous avons eu une histoire très longuement unilatérale, qui était, bon, chacun le sait, l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Et cette histoire-là n'était pas compatible avec l'écriture de faits historiques avérés qui montraient que tout le processus négrier avait été principalement, et ça j'en veux, je cite vraiment avec beaucoup de plaisir, un véritable historien qui n'est pas un historien comme Petré Grenouillot, mais un historien qu'on appelle Fernand Braudel, reconnu par les historiens, qui a dit très clairement que la traite négrière était européenne, que l'Europe a fabriqué par sa demande une offre africaine et que c'est le destin d'une civilisation d'en dominer une autre. Mmh. Il l'a dit très clairement dans La civilisation matérielle, c'est en 1979 chez Armand Colin. Donc, c'est vérifiable. Donc, c'est pour dire que ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on a une prise de parole qui est différente. Elle provient des historiens du monde entier, elle provient des peuples du monde entier qui peuvent donner leur version de l'histoire. On a quelqu'un comme Kizerbo qui nous a quittés tout récemment, qui a contribué énormément à l'écriture justement de l'histoire générale de l'Afrique dans le cadre de l'UNESCO. Je dois dire que personnellement, je me suis beaucoup instruit de ces travaux quand j'ai réfléchi sur cette question et sur l'histoire générale de l'UNESCO, qui n'est pas une histoire eurocentrique, une histoire écrite par le dominant. Mmh. Donc on a forcément une perspective différente. Quand on lit l'histoire standard, on a peine à s'imaginer ce qu'était l'Afrique. Hein. Et je crois que c'est aussi un des aspects les plus importants, c'est qu'aujourd'hui on découvre, avec des auteurs et des savants comme Cheranta Diop entre autres, qu'on avait toute une autre Afrique. Je veux dire, quand on lit, et il n'y a pas que Cheranta Diop, on lit même des Européens qui ont été marginalisés en Europe, comme Léo Frobenius, ou là je lis quelqu'un qui s'appelle Markov, un russe, un plasticien russe, qui écrit parce qu'il était émerveillé par les civilisations africaines, sur l'art yoruba, etc.
L'art africain.
Bon, donc ça montre qu'avant la traite négrière, avant les traites négrières, et je précise transatlantique, puisque là on ne parle pas de la traite arabe qui a commencé plus tôt, avant les traites négrières, il y a eu une véritable urbanisation en Afrique. Il y avait des villes de plus de 90 000 habitants à Ibadan ou bien à Tombouctou, plus de 100 000 habitants. C'était des véritables civilisations. Et je parle sous le contrôle d'un Éthiopien qui peut, de ce point de vue, me donner toute la trace du Méroïtique, de la Nubie, etc., et de l'Égypte. Donc, il y a une véritable civilisation qui est florissante et qui a aussi ses points forts et ses points faibles. Ça, c'est important à savoir, parce que sinon, on a l'impression que le nègre arrive dans l'histoire en tant qu'esclave et qu'à la limite, c'est son
meilleur sort possible.
Voilà.
Oui. Monsieur Selassie.
Moi, je pense que, comme il vient d'être dit, c'est sûr que ce qui a changé, c'est que nous parlons de ces problèmes nous-mêmes. Mm. C'est-à-dire nous, les Africains, qui avons été, pas les sujets de notre histoire, mais dans l'esclavage, l'objet. On était considérés comme le bois d'ébène qui étions vendus. Et mon frère a parlé de la traite transatlantique, mais la traite a été aussi intense également à travers l'océan Indien. Il ne s'agit pas uniquement de la traite dite arabe, mais l'esclavage dans l'océan Indien, si du côté de l'Atlantique, il y a à peu près 11 millions ou 20 millions, c'est selon les estimations, même plus, de nos frères qui ont été vendus comme du bois d'ébène, n'est-ce pas, comme des objets, il y en a eu à peu près 9 millions ou 15 millions, selon certains, dans l'océan Indien. Et toujours vers la même époque. Et toujours avec comme objectif, et c'est très bien que mon frère ait cité Fernand Braudel, parce que c'est ça qui est très important, c'est que nous ayons une vision de ces problèmes dans la longue durée. Et la longue durée pour la traite négrière, bien entendu, en gros ça commence vers 1550, et sous une certaine forme, ça se poursuit même encore aujourd'hui. Nous allons peut-être y venir dans le cadre de notre discussion. Sûr. Mais fondamentalement, il est important de comprendre qu'avec des gens comme Kizerbo, qui vient de citer, dont la disparition est quand même une blessure pour des gens comme nous. Il a cité également chez Cheikh Anta Diop, qui vraiment est le premier à avoir articulé l'histoire même de l'identité noire, alors là, du sujet, n'est-ce pas ? L'histoire même de la civilisation égyptienne dans son berceau africain, dans son berceau noir. Or, cette manière de poser les problèmes nous a été, qui est factuelle, renié à nous, qui n'étions que jusqu'ici que des objets, des discours et non pas les sujets, qui parlent eux-mêmes. Alors, et le titre de l'ouvrage de mon ami, Esclave noir et maître blanc, n'est pas sans me rappeler, bien entendu, Peau noire et masse blanc de François Fanon, qui lui-même a été un Martiniquais élève de Aimé Césaire, de la même promotion que Glissant. Et là, nous devons rendre grâce à, et rendre hommage. Et je vois qu'il y a un chapitre à, qui, dans votre livre, parle d'Aimé Césaire.
Aimé Césaire,
il y a
interview.
Un entretien avec Aimé Césaire.
Longue,
et il nous dit que quand on aborde quand même ces problèmes-là, lui, par exemple, et moi je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que lui, sur la réparation, il s'agit d'abord de faire reconnaître la vérité. C'est la réparation morale qui est tout aussi importante que la réparation matérielle. La réparation matérielle peut parfois, si on la pose de manière précipitée, occulter cette quête, cette recherche de la vérité dans laquelle nous accompagnent beaucoup de non-Africains. Tiendra peut-être un moment, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'importe, où les faits eux-mêmes, la vérité elle-même, s'imposera et la question de la réparation peut être posée dans des conditions favorables. Mais la poser trop tôt, me semble-t-il, et ça c'est l'objet d'un débat qui serait assez intéressant, nous placerait dans une situation où ceux qui ont de la sympathie à notre égard peuvent éventuellement s'écarter en réduisant la part de notre lutte, qui est quand même quelque chose qui est supérieur à un aspect matériel. Il s'agit de l'identité culturelle qui n'est pas monnayable, qui n'est pas négociable. Donc, dans ce cheminement-là, Césaire dit qu'il faut que nous luttions dans ce domaine avec intelligence et doigté.
Alors, on va y revenir sur justement cette question des réparations. Donc, la traite transatlantique commence en 1550 environ.
Disons que, là, c'est, tout est un peu... Bon, il n'y a pas un jour comme ça où on s'est dit, attention, ça commence ce jour-ci. Donc, c'est difficile à dire. Mais il y a eu déjà, au milieu du 15e siècle, vers 1441, il y a eu déjà en Mauritanie, vers Arguin par là-bas, il y a déjà des captures de nègres qui sont ramenées à la cour royale du Portugal. Mais les choses ne vont s'institutionnaliser que progressivement jusqu'à ce que le pape, par exemple en 1454, quand même c'est important à dire, le pape de l'époque dit le commerce des nègres est autorisé. Et il faut aussi dire que jusque pendant toute la période qui va suivre, les États coloniaux vont légiférer, c'est-à-dire qu'on va créer des contrats spécifiques, on va faire des incitations fiscales en disant voilà tel nombre de têtes de nègres.
Ce sera un commerce.
Et en France, Colbert dira c'est un commerce national, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un commerce prioritaire, stratégique.
Tout à fait.
Donc c'est important.
Alors moi justement, c'est cette période-là, moi je voudrais qu'on en parle. Donc l'esclavage, la traite transatlantique commence donc à cette période-là. Vous dites que nos civilisations sont constituées, on a des armées, des rois, des reines, enfin tout est On est face à une civilisation qui n'a pas à rougir d'une autre. Qu'est-ce qui fait que justement, on perd l'enjeu, en fait, on perd notre destin. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments qui font que face à un autre,
c'est une grande question, parce que si on dit qu'on a des civilisations florissantes,
qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette chute vertigineuse? Quel était le contexte de l'époque? Alors, j'ai un autre invité qui vient d'arriver, qui va se présenter. Oui, allez-y.
Je m'appelle Mohamed Yahya Oultsiré. Je suis mauritanien et je suis président de l'association des Haratines de Mauritanie en Europe. voilà, on m'avait dit qu'on devrait intervenir sur le cas de l'esclavage en Mauritanie. Mm. Je ne sais pas si c'est... Je ne crois pas que ce soit vraiment le cas.
On va en parler tout à l'heure.
D'accord. Bon, tout à l'heure, notre ami parlait du début de la traite. Effectivement, la traite a commencé, la traite occidentale, la traite atlantique a commencé en Mauritanie, aux portes antiques, justement, qui est aujourd'hui Nouadhibou. Et c'est à partir de 1441 que vous disiez que cette traite a commencé avec le Portugal. D'ailleurs, on prenait des Moors, mais à la fin, ça s'est réduit aux Noirs. On prenait des Noirs et à la place des Moors. Et les Moors se sont spécialisés dans la recherche des esclaves noirs en leur donnant aux Portugais qui les amenaient au Portugal et au reste de l'Europe. Donc, votre question.
Oui, qu'est-ce qui fait, si on est d'une nation florissante, bien installée, bien ancrée, qu'est-ce qui fait que l'autre arrive à nous vaincre et à...
Moi, justement, je propose...
Dans ma thèse, sur l'esclavage, l'abolition de l'esclavage en Mauritanie, les difficultés de son application, j'ai trouvé un facteur pour moi qui est déterminant. C'est-à-dire que déjà, les traites orientales ont commencé... bien avant la traite atlantique. Mm. Ça, il faut toujours le dire. Tout à l'heure, notre ami qui est à ma gauche parlait de comment on disait encore
De moi-même esclave, bien d'esclave.
Non, mais vous parlez de rôle de l'océan Indien, c'est-à-dire la traite orientale. Oui. Mais vous avez donné un chiffre. Moi, je crois que d'abord, il faut dire que c'est la première forme de traite négrière. Elle est très ancienne. Mm. Elle date du début du 7e siècle. Début du 7e siècle.
Quelle traite?
La traite orientale. Arabe, du fait arabe. Des Arabes et des musulmans.
Alors justement, ça c'est un autre pan de l'esclavage qu'on aborde souvent.
C'est très important. Ouais. Et là, d'après les auteurs que j'ai cités dans ma thèse, l'abolition de l'esclavage et les difficultés de son application, et jusque-là, les Africains pouvaient se faire la guerre entre eux pour des raisons tribales, politiques, économiques, mais jamais un problème religieux.
Ah ben oui.
Les musulmans, c'est introduisant évident. L'islam,
c'est évident.
Ont créé les soumis et les insoumis. Ce qui fait que les Noirs d'Afrique ont commencé à se faire la guerre, non pas sur des bases politiques ou d'intérêts régionaux ou claniques, etc., mais c'est une base, vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman. Je crois que ça, c'est l'affaiblissement le plus important qui est venu, qui a déstabilisé les Africains. Mmh. Bon, du 7e siècle, donc du début du 7e, de la moitié du 7e siècle jusqu'à l'arrivée des Européens, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à la moitié du 15e siècle. Et là, deux traites, ce sont donc quand même...
On télescopé le continent.
Et nous ont d'autant plus affaibli.
Accaparés,
elles ont cerné l'Afrique de l'Est, du Nord. Ah oui. N'oubliez pas la traite saharienne, je parlais de la traite orientale, qui est la plus ancienne. Mais la traite saharienne, elle a commencé à peu près à la même époque. Mmh. La traite saharienne, c'est de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Mmh. N'oubliez jamais ça. Elle a été excessivement grave et certains auteurs, dont Austen, disent qu'ils ont fait 17 millions de Noirs déportés. Et déportés dans des conditions difficiles parce qu'ils traversent tout le Sahara en marchant.
On a des auditeurs.
Et donc, je parle que ça, c'est très important de
le dire. On a des auditeurs. Gislain.
Facteur religieux.
Oui, bonjour Eugénie.
Bonjour Gislain.
Oui, bonjour aussi à vous inviter. Oui. Donc, en suivant votre mission, j'ai juste une question qui m'arrive. Je voulais savoir, en traitant ces sujets si intéressants, est-ce qu'il y a une catégorie de gens que ces sujets gênent, donc dérangent? Si oui... C'est laquelle? C'est juste ma petite question.
Pourquoi vous posez la question puisqu'on en parle dans cette émission? On est écouté par des millions de personnes. Pourquoi la question, Ghislain? Je ne comprends pas très bien.
Bon, moi, je veux savoir de ce sujet, si pour évoluer, est-ce que ça, il y a des gens qui s'agènent quand on parle de, actuellement, on parle de l'esclavage. Est-ce que, je voulais un peu savoir s'il y a une catégorie présente, quoi.
Qui peut répondre à cette question?
Bon.
Monsieur Célercy.
Je pense que la question est fondée. C'est-à-dire, bon, certes, à votre radio, il a cette possibilité de faire connaître ses problèmes, mais il est à constater que ce genre de problème n'est pas débattu dans les grands médias. Et donc, on peut se demander si ça gêne certains que cette vérité-là, notre part de vérité, soit connue.
Tout à fait.
Comment se fait-il que, quand il y a, même récemment, des questions où notre identité en tant qu'Africain a été interpellée par des chansonniers? Je ne veux pas citer des noms, parce que ce serait de raccorder trop d'importance.
Ils ne le mériteraient
les
pas
gens,
forcément.
Les gens les reconnaîtraient de toute façon. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu autant de condamnations que dans d'autres contextes? Donc, c'est vrai que certains sont gênés. Heureusement qu'il y a des radios comme la vôtre. Je dois dire aussi que Radio France Internationale nous donne la possibilité de nous exprimer. Et comme à l'occasion du 50e anniversaire du premier congrès des écrivains artistes noirs, vous avez eu la chance de nous recevoir en même temps que Mme Suzanne Diop. Il est à espérer que la nouvelle télévision à laquelle elle faisait appel, qui vient de commencer pour les francophones, nous permettra de poser ce genre de problème qui est au cœur d'un certain nombre de questions essentielles que nous nous posons en matière économique. Avec mon frère, je préfère... laisser la parole à mon frère.
C'était juste pour la question de la gêne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont gênés? Oui. Dans mon introduction, j'aborde la question de mémoire dominée contre mémoire dominante. J'essaye de réfléchir sur le fait que lorsqu'on est dans un espace multiculturel ou multiculturel et multiethnique,
comme
où on
nôtre.
Peut avoir, exactement, comme le contexte français aujourd'hui, où on peut avoir des origines et des histoires différentes. La vérité peut être, pour certains, difficile à accepter. Parce qu'à un moment donné, on a pu être les bourreaux de d'autres, et d'autres aussi ont, et les autres aussi ont leur part de responsabilité sur d'autres questions. Mais il n'empêche que, la mémoire n'est pas toujours consensuel spontanément. On ne va pas automatiquement avoir un consensus quand on dit il y a eu un négrier. Par exemple, quand Claude Rib dit voilà Napoléon criminel, parce que si on dit un criminel, c'est celui qui a déporté, gazé telle et telle et telle quantité de personnes, et ben on doit le dire pour tous. Le fait de le dire dans un pays où Napoléon représente ce qu'il est, c'est celui qui a institué, je dirais même d'une certaine façon, la modernité française, c'est indicible ou inaudible, tout au moins. Donc la mémoire est à un certain moment consensuelle. Elle n'est pas l'objet d'un consensus. Et il faut travailler justement avec la vérité historique, avec la pédagogie, pour amener les uns et les autres à cette question de vérité historique qui pourrait permettre à tout le monde de s'en instruire et de se reconstruire sur une nouvelle base de république, sur une nouvelle base de citoyenneté, sur une nouvelle base même, j'oserais dire, d'humanité. Et c'est en cela que c'est un défi. Et on pourrait rentrer de façon beaucoup plus précise pour montrer pourquoi la question de la traite négrière gêne. Je me souviens quand Serge Billet est venu chez vous, et qu'il a dit, voilà, les commerçants, il y a des commerçants arabes et des commerçants juifs qui pratiquaient la traite négrière, il y a eu des coups de fil pour dire, oui, pourquoi vous redites ça, etc., etc. Or, toute personne qui retrace un petit peu l'histoire de la traite négrière, on tombe sur cette réalité que n'importe quel historien peut...
Comme on tombe également sur notre responsabilité, Monsieur Célassier, vous vouliez également qu'on aborde cette question.
D'une phrase, pour l'accompagner dans ce qu'il vient de dire, je citerai un proverbe africain. Pourquoi ça gêne? Parce que la vérité blesse.
Tout simplement.
Mais le mensonge tue.
Il y a beaucoup d'auditeurs,
Merci.
Je vais prendre Mamadou.
Je reconnais la sagesse de notre aîné.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Mamadou, je vous écoute.
Ouais, je voulais qu'on éclaircisse certaines choses.
Lesquelles?
Les historiens, quand ils font leurs recherches, qu'ils fassent très bien, ne confondons pas l'islam et arabe. L'islam est venu trouver l'esclavage chez les arabes. Donc, c'est pas l'islam qui a instauré l'esclavage. Et le disciple du prophète Mohammed, Salam Taslim, qui était Bilal, un esclave noir, c'est le prophète Mohammed qui l'a libéré. Donc, ne confondons pas les choses. L'islam est venu trouver l'esclavage chez les Arabes.
C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci. Merci, Mamadou. Oui, monsieur Mohamed Yahya Oul-Siré. Oui.
Je voudrais dire que oui, l'islam a trouvé l'esclavage devant lui, dans la société arabe, dans la péninsule arabe. Il a lutté contre, mais il l'a aussi légalisé. Il ne faut pas se tromper. L'islam a bien légalisé l'esclavage, lui a donné un contenu juridique légal. Il a cependant pris des mesures d'incitation à l'affranchissement, mais il l'a bien légalisé. Et cette légalisation de l'islam a bien permis aujourd'hui, de par le passé, elle permet aujourd'hui à certains de continuer à pratiquer l'esclavage, et notamment en Mauritanie, mais aussi au Soudan, mais dans les pays arabes, de dire, puisque l'islam en a parlé, puisque l'islam l'évoque et l'admet,
c'est légitime,
comment se fait-il que nous ne continuions pas à l'appliquer. Donc oui, je veux dire que l'islam n'a pas été à l'origine de l'esclavage. Il l'a trouvé dans la société. L'esclavage était un phénomène mondial. Il a existé dans toutes les sociétés. Et à l'époque, l'esclavage dans la péninsule arabique n'avait pas un caractère racial, il avait un caractère social. Parce que c'était les Arabes qui réduisaient d'autres Arabes à la guerre, à l'esclavage. Mais malheureusement, au développement de l'islamisation, le phénomène est arrivé en Afrique. Et là, on a spécialisé la traite orientale et saharienne sur les Noirs qui ne pouvaient pas se défendre. C'est un point très important. Finalement, on a laissé tout le monde, parce que partout où l'islam a passé, il a légalisé l'esclavage. Mais finalement, dans sa route vers l'Afrique, il a fait des esclaves partout. Mais quand il a atteint l'Afrique, il s'est spécialisé dans la traite africaine et en laissant tout le reste. Et c'est comme ça qu'il faut dire, c'est très important.
Monsieur Sélassié.
Que mon frère me permette de différer fondamentalement. Parce que je suis, par exemple, moi, personnellement, né chrétien et d'éducation chrétienne. Mais je viens d'un pays où, par rapport à l'islam et au monde arabe, d'abord à la naissance du prophète Mahomet, c'est mon pays, l'Éthiopie, qui dominait la péninsule sud-arabique, l'année de l'éléphant. Par conséquent, le colonisateur, c'était à l'époque l'Éthiopie. Et la naissance du prophète correspond au déclin de la Pax Ethiopica sur la mer Rouge. Mais l'Éthiopie était déjà chrétienne depuis plus de deux siècles, de telle sorte que, connaissant quelles étaient les mœurs qui existaient dans la péninsule arabique, telles que le lui avaient relaté ses parents, quand les premiers disciples de Mohammed seront persécutés, il leur dira « Traversez la mer Rouge, allez voir le roi d'Éthiopie, parce que dans l'espace éthiopien, vous ne serez pas persécutés pour des questions religieuses. » Et parce que effectivement, ces disciples ont été accueillis, et que quand les marchands de la Mecque et de Médine ont voulu les récupérer en disant que c'est des criminels de droit commun, le roi d'Éthiopie empêchera qu'ils soient donnés. Et il comparera l'islam au christianisme en disant, à plus d'un titre, ces deux religions universelles se ressemblent. Et par conséquent, le djihad, en tant que tel, est interdit contre l'Éthiopie. Et ça, c'est la partie la plus avancée de l'islam. En d'autres termes, l'Éthiopie était devenue musulmane, sans l'utilisation de la force, pas par le contraindre, mais par le convaincre, pour la partie des Éthiopiens qui sont aujourd'hui tout aussi nombreux que les musulmans, que les chrétiens, puisque le pourcentage est comparable, sans qu'il n'y ait eu de la force. Par conséquent, quand nous avons tendance à généraliser en disant « c'est l'islam » ou « c'est les Arabes », nous nous tromperons nécessairement, de même que quand nous disons « c'est les Blancs », « c'est les Jeunes », toute généralisation
je m'y perds un peu. Où est la vérité, finalement?
Je propose une chose.
Oui.
Première nuance, c'est de dire que le facteur religieux, alors ce qui a peut-être été aussi fondamental en islam, c'est que l'islam, à un moment donné, affranchissait sur le critère religieux. C'est-à-dire que vous ne pouviez être affranchi et vous n'aviez pas le droit d'esclaviser quelqu'un qui était musulman. Donc à partir de ce moment-là, tout non-musulman, blanc comme noir, soit dit en passant, était susceptible d'être un captif et un esclave. Je pense que c'est à partir de ce moment que les choses se déclenchent, d'autant plus qu'après, il y a un rapport de force, de domination, qui fait que les pays de l'islam, on va dire de la culture arabo-musulmane, ayant plus de pouvoir à un moment donné militaire que les pays du Sud, vont avoir plus facilement, entre guillemets, ou moins difficilement accès à des esclaves noirs qu'à des esclaves blancs. Et c'est pour ça que je reviens à votre première question qui consistait à dire
si nous avions des sociétés, des civilisations aussi florissantes, pourquoi ça s'est produit ? Et là, je pense qu'on est obligé de revoir justement le cycle long, aussi bien de l'humanité que des traites négrières et de l'esclavage. C'est-à-dire que même quand nous sommes au 15e siècle, on est déjà globalement dans un processus de régression. Si vous prenez les États africains sous l'Égypte antique ou sous la Nubie, tout ce qui va se faire après, et on peut remarquer les traces, et même dans le Méroïtique en Éthiopie, toutes les autres civilisations qui vont naître après n'atteindront plus les performances de leurs aînés. Donc on est quand même dans un processus global où on redescend vers l'Afrique, déjà même physiquement, il y a plus de migration, etc., et où on perd du pouvoir. Je pense que c'est extrêmement important.
On va passer la parole, si vous permettez, on va passer la parole aux auditeurs. Séraphin qui nous appelle de Saint-Étienne, s'il est toujours là. Séraphin ?
Oui, bonjour Eugénie.
Bonjour Séraphin, je vous écoute.
Oui, en fait, j'aimerais intervenir au sujet de la réparation en fait, liée à l'esclavage et à la colonisation. En fait, si j'ai bonne souvenance, il y a un de vos invités qui souhaiterait qu'on nous rémunère en monnaie son acte trébuchante.
C'est pas ce qu'on a dit, hein.
Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Il a dit, en fait, il optait pour une réparation. Oui. Voilà, il optait pour une réparation, en fait. Bon, en fait, moi, je suis pas pour la réparation, en fait, matérielle, mais plutôt pour une réparation morale.
Mais c'est ce qu'il a dit, justement.
Ah, bon, d'accord. Donc,
réparation morale, bien l'asseoir, bien pour que la réparation, comme vous dites, en monnaie sonnante et trébuchante, puisse intervenir.
Voilà, pour ce qu'on a subi, pour ce que nos ancêtres ont subi, je pense pas qu'on puisse nous rémunérer, franchement, je sais pas, ça ne sert à rien de nous donner des sous, en fait.
On va aborder la question dans la dernière partie, Séraphin. Edwige ?
Oui, bonjour
Edwige, oui.
Oui, moi j'interviens par rapport à la gêne dont le premier intervenant parlait tout à l'heure. Moi, effectivement, je suis ivoirienne, mais ça me gêne. Ça me gêne du temps, puisque je suis heureuse qu'il y ait un Mauritanien sur le plateau, parce que je vois en Côte d'Ivoire des Mauritaniens blancs qui détiennent des nappes rasées. Mais tu vois des Noirs esclaves qui sont assis, qui sont à leur botte, qui font tout le ménage, qui font la cuisine, les autres sont assis, les bras croisés, et ils se plient pour leur donner à manger. Et quand je vois ça, je suis du temps plus choquée. Je dis, comment un être humain comme eux, et on me dit que non, c'est un esclave. Pourtant, on nous dit, nous, notre génération d'après 60, on nous dit que l'esclavage a été
aboli.
Elle a été abolie. Et de deux, ma deuxième préoccupation, c'est vrai que les historiens vont beau dénoncer, mais il y a des tribus en Afrique où il existe des royaumes qui appliquent encore. Comment on appelle ça, l'esclavage, parce qu'il y a des esclaves dans ces royaumes-là, où il y a des royaumes. Je suis ivoirienne, au pays, quand il y a des royaumes, mais si tu t'en vas dans la cour du roi, tu trouves des esclaves. Si on dénonce...
Ça vous dérange, Edwige, parce que c'est vrai que ça remue beaucoup de choses, mais il faut bien qu'on en parle.
Mais c'est vrai, il faut qu'on en parle, mais entre nous, si on doit encore aller chose, dénoncer ce que le mal que les blancs nous ont fait, les colons nous ont fait, et qu'on doit l'appliquer encore entre nous, c'est d'autant plus encore plus grave.
On y reviendra. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous aborderons la question de la réparation et nous parlerons de l'esclavage en Mauritanie. Oh,